Question d'islam par Al-Benshir. Aujourd'hui, nous parlons de science et spiritualité, de raison et foi, de ce débat dans les contextes islamiques. Qu'en est-il au juste ? Et ce sera avec l'astrophysicien Abdelhak Guiderdoni. Abdelhak Guiderdoni, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir nous parler de ce sujet et du débat actuel entre science et religion dans les contextes islamiques. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes un ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. D'emblée, qu'en est-il de ce débat entre science et religion en islam ?
C'est un débat qui est très actif. D'ailleurs, il ne l'est pas simplement dans le monde musulman, mais il l'est aussi dans le monde juif, le monde chrétien, parce que science et religion façonnent le monde actuel. Il est normal que ces deux instances entrent en dialogue, de façon d'ailleurs très diverse. Et au sein du monde musulman, il y a ce que j'appellerais une appétence particulière pour les questions scientifiques. Le problème est que cette appétence se traduit malheureusement par souvent une relation impropre entre science et religion qui débouche sur ce qu'on pourrait appeler des pathologies. Et parmi ces pathologies, il y a le créationnisme et le concordisme. Donc tout l'enjeu est d'arriver à établir ce dialogue entre science et religion qui est nécessaire au XXIe siècle sur des bases saines qui respectent la démarche et les méthodes de chacune des instances.
Abdelhak Guiderdoni, ce débat foi, raison, la place de la raison, très tôt a émergé dans les contextes islamiques et notamment avec l'école dite Mu'tazilite, ceux qui se sont isolés, ceux qui se sont mis à l'écart, ceux qui se sont retirés, peut-être physiquement, mais un jour on parlera de cette école, mais avec eux déjà. Et puis j'ai vu dans vos travaux, vous évoquez, si vous vouliez même nous le dire maintenant, trois grandes figures qui avaient abordé ce sujet. Avicenne, l'Avicenne des Latins, Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des Latins et Averroès.
Le débat entre science et religion actuellement est une manifestation renouvelée d'un très ancien débat qui est celui entre la raison et la foi. Ce débat, il irrigue la pensée juive, chrétienne et musulmane depuis des siècles et des siècles. Dans le contexte musulman, ou les contextes musulmans dont vous parlez, le grand tournant, c'est le début du califat abbasside, donc à la deuxième moitié du 8e siècle et au début du 9e siècle, quand l'empire abbasside se met à s'intéresser à la science d'origine grecque essentiellement, mais aussi d'origine indienne, pour récupérer l'ensemble du patrimoine de connaissances de l'humanité à cette époque et le traduire en arabe. C'est un événement considérable dans l'histoire de l'humanité qui a été récemment étudié et apprécié par un universitaire américain du nom de Dimitri Goutas. Et Dimitri Goutas montre que cette entreprise n'est pas simplement une lubie de quelques califes éclairés, mais c'est vraiment toute la société musulmane, à la fois les ministres, les généraux, les médecins, les commerçants, les ingénieurs qui s'intéressent à la science grecque et qui vont donc la traduire en arabe et ensuite la développer, parce que évidemment il y a le fameux cliché orientaliste selon lequel les arabo-musulmans n'ont été que les transmetteurs passifs de la science, comme des ânes portant des reliques en quelque sorte, hein, mais qui n'y ont rien compris. Ça, c'est un cliché que l'orientalisme a véhiculé au XIXe siècle et au début du XXe siècle, et des études tout à fait sérieuses montrent qu'il n'a rien été, bien au contraire. La science s'est développée pendant des siècles et des siècles au sein du monde musulman. Et il y a donc cette entreprise de d'appropriation de la connaissance du temps par la société abbasside à la fin du 8e, début du 9e siècle, et ça a des conséquences considérables, bien sûr sur la société, mais aussi sur la pensée théologique, avec l'émergence d'une école de pensée théologique qu'on appelle les Mu'tazilites, l'école à laquelle vous faisiez allusion, et les Mu'tazilites pose la raison humaine comme un principe d'accès à la vérité. Dieu, disent les Mu'tazilites, ne peut pas faire des choses que la raison réprouve. Nous sommes capables de comprendre pourquoi Dieu fait les choses. Et donc cela fonde la responsabilité humaine, puisque Dieu fait les choses parce qu'elles sont justes, et nous, avec notre raison, nous pouvons reconnaître la justice des choses, la justice qui est dans les choses. Alors c'est un moment très important qui accompagne l'émergence de la réappropriation, de l'appropriation de la science grecque à ce moment-là. Et le Mu'tazilisme va devenir une sorte de religion d'État avec peut-être aussi tout l'aspect négatif que peut comporter une religion d'État, avec l'obligation, par exemple, pour les imams de souscrire à cette vision des choses. Et finalement, le califat abbasside va abandonner ce Mu'tazilisme en tant que vision privilégiée par les pouvoirs publics, mais le Mu'tazilisme continuera à se développer pendant des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, la grande période du Mu'tazilisme, c'est après les califes éclairés, donc Al-Ma'mun et ses successeurs. Ouais. Alors ça, c'est un premier moment très important de l'articulation entre la raison et la foi, puisque la foi, est pour les Mu'tazilites, est mise dans les limites de la raison naturelle. Et il y a un deuxième moment très important au sein de la pensée musulmane, mais on pourrait dire aussi de la pensée universelle, hein, parce que cette réflexion a eu des traces ensuite dans d'autres aires civilisationnelles, évidemment au sein du judaïsme et du christianisme. C'est le dialogue qui a eu lieu à travers les espaces et les siècles entre ces trois figures considérables de la pensée musulmane, que sont Ibn Sina, donc Avicenne en latin, Al-Razali, Al-Ghazal en latin, et Ibn Rushd, Averroès en latin. Ces trois figures essaient de proposer une articulation entre les données de la science essentiellement d'origine grecque, mais déjà développée au sein du monde musulman, et la pensée théologique. Mais les synthèses auxquelles ces trois figures arrivent ne sont pas identiques. Ce qui est remarquable, c'est que aussi bien Avicenne qu'Al-Razali et Averroès sont certains que la raison est bonne parce qu'elle est un don de Dieu. Dieu nous donne la raison pour nous orienter dans le monde, et il ne nous trompe pas quand la raison est bien menée. Donc ils sont d'accord sur ce point. Ils sont aussi d'accord sur le fait que les données de la raison bien menées ne peuvent pas conduire à des résultats qui sont en désaccord avec
la révélation,
la foi, avec la révélation. En revanche, ils sont en désaccord sur la façon de régler les désaccords. C'est-à-dire, s'il y a un désaccord, ce désaccord ne peut être qu'apparent, mais comment le régler? Est-ce que ce sont les philosophes ou les scientifiques qui se sont trompés, on pourrait dire, dans leur raisonnement ou dans leur calcul, à partir du moment où ils arrivent à des résultats qui sont contraires à la révélation, et donc ils doivent retourner sur leurs travaux? Ou bien est-ce que ce sont les théologiens ou les commentateurs des textes sacrés du Coran qui doivent fournir de nouvelles interprétations qui sont conformes à ce que la raison nous apprend? Et là, il y a un désaccord, notamment entre les travaux d'Al-Razali et les travaux d'Averroès. Alors, je rappelle que Avicenne, Al-Razali et Averroès ne se sont jamais rencontrés, mais ils ont partagé un univers intellectuel commun et ils ont abordé les mêmes questions à chaque fois en reprenant à nouveau frais, en quelque sorte, le dossier.
Et ils ont partagé cet univers intellectuel commun par-delà le temps et aussi l'espace de l'Empire, en quelque sorte. Abdelhak Guiderdoni, permettez-moi de revenir sur deux choses, en tout cas une avec une fourche. La première, en reprenant votre expression chez les orientalistes qui, pour certains, allaient dans le sens de l'œuvre coloniale, en disant que les arabo-musulmans, arabo c'est parce que la langue véhiculaire étant la langue arabe, n'avait rien apporté au corpus du savoir universel, avec donc l'idée que ce sont des ânes portant des reliques. Quelqu'un comme Ernest Renan parle de l'islam comme étant le dédain de la science, la suppression de la société civile, et qui finit par dire qu'il n'y a rien d'autre qu'une éternelle tautologie, Dieu est Dieu. C'est curieux cela. Et d'autres, au mieux, diront que cette science-là était ancillaire aux questions théologiques, servante en quelque sorte de la religion, c'était pour connaître les heures de la prière, l'observation de la lune pour observer le jeûne du mois de Ramadan, etc. Et pourtant, il y a eu un engouement, une éclosion de la science pour la science.
Tout à fait. La science est conçue comme étant une branche de ilm, du savoir. Savoir à la recherche duquel le Coran nous incite constamment, ainsi que la tradition prophétique. Donc il n'y avait pas cette idée que d'un côté un savoir religieux devait être cherché à l'exclusion de l'autre côté, c'est-à-dire de la science du monde. Hein. Dieu est créateur du monde, Dieu est révélateur de la révélation, il fait descendre les livres saints, pas simplement le Coran, mais aussi les livres qui ont précédé. Il est donc l'auteur à la fois de la révélation et de la création, et étudier la création, c'est continuer à comprendre l'œuvre de Dieu dans le monde, qu'il n'y a pas de séparation entre ces deux domaines. Et c'est quelque chose de très important, il y a la métaphore des deux livres qui a souvent été employée dans un contexte chrétien, mais aussi dans un contexte musulman, Al-Mushaf al-Kabir ou Al-Mushaf al-Sarir, le grand livre du monde, et le petit livre de la révélation, le petit livre au sens où il est physiquement petit.
D'aucuns disent qu'il y a une isomorphie entre le livre révélé et le livre univers, et que les signes de Dieu dans le livre révélé, l'ayat, les versets coraniques, renvoient aux traces de l'artisan premier dans le livre univers.
C'est exactement cela. Ce sont les mêmes mots qui sont employés pour désigner les phénomènes de la nature et les versets du Coran. Les uns et les autres sont des signes qui nous renvoient à la puissance, à la majesté et à la beauté du Créateur. Les uns et les autres sont créés par l'ordre divin. Hein. L'ordre divin, quand Dieu veut créer une chose, c'est soi, kun. Et quand il veut révéler au prophète Mohammed le Coran, il lui intime l'ordre de lire, ikra. Donc l'un et l'autre, le monde et la révélation, commencent par un impératif, un ordre. Et l'un et l'autre sont finalement de la parole de Dieu, le verbe divin, rendu visible, contemplable, intelligible à l'homme. Et c'est quelque chose de très important qui fonde l'idée que raison et foi convergent. Raison et foi ne peuvent pas être en désaccord, et il s'agit simplement de trouver l'articulation juste entre l'une et l'autre. C'est le mot qu'emploie Averroès, ittisal, l'articulation, comment respecter les deux domaines tout en les faisant dialoguer et en les mettant l'un et l'autre en perspective.
Sans vouloir extraire les passages coraniques de leur contexte, il y a cette méditation du verset coranique, le 190 de la sourate 3, la sourate de Al-Imran, qui dit en substance, certes dans la création des cieux et de la terre et dans l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes pour ceux qui sont doués d'intelligence, ceux qui, debout, assis, couchés, ne cessent de méditer cela, disant « Seigneur, tu n'as point créé ceci en vain ». gloire à toi et préserve-nous des tourments du feu. Enfin, je l'ai cité de mémoire, je ne sais pas si je me suis pas trompé ou pas, mais ce verset coranique ainsi que d'autres sont à la base de la méditation du monde parce que la création n'est pas vaine.
La création est faite pour nous enseigner la connaissance de Dieu, hein, ce qui est le but de l'existence humaine. Donc nous connaissons Dieu par la contemplation du monde, nous connaissons l'ouvrier à son œuvre, et puis aussi nous avons besoin que Dieu vienne couronner cette connaissance par la révélation qui nous parle de choses que nous ne savons pas. Hein, c'est ce que disent les premiers versets révélés de la sourate Al-Alaq, hein,
l'adhérence.
L'adhérence, au nom de ton Seigneur qui a créé, et il a créé l'homme à partir d'une adhérence, lit, car il enseignait avec le calam ce que l'homme ne savait pas. Là aussi, je dis les choses un petit peu en paraphrasant. Hein. Dieu vient révéler le Coran pour enseigner à l'homme ce que celui-ci ne savait pas, c'est-à-dire essentiellement le but de la vie humaine, et ce que l'homme peut devenir dans l'autre monde avec la question du salut et de la justice divine.
Abdelhak Guiderdouni, et à ceux qui disent aux deux livres que vous avez évoqués tout à l'heure, le grand livre et le petit livre, petit par sa dimension physique, ce que j'ai appelé le livre univers et le livre révélé, d'aucuns veulent ajouter un troisième livre qu'ils appellent le livre intérieur. Et la contemplation aussi, ou l'intériorisation de ce livre de l'âme, c'est celui qui permet aux mystiques de se connaître eux-mêmes pour connaître Dieu.
Oui, parce que finalement, il y a trois moments où Dieu nous parle. Dieu parle en créant le monde, pas simplement d'ailleurs au début de la création, mais Dieu ne cesse de renouveler la création à chaque instant. C'est ce que la tradition islamique appelle tajdidul khalq, le renouvellement de la création. Le monde n'est pas autosuffisant, il est tiré du néant par la parole divine, issue de la miséricorde de Dieu. Et si Dieu cessait de soutenir le monde au-dessus du néant, le monde retomberait immédiatement dans le néant. Donc Dieu ne cesse de soutenir le monde dans l'être au-dessus du néant. Il parle en permanence. Par ailleurs, il nous parle aussi à travers la révélation, à travers les révélations, hein, puisque sa parole n'est pas épuisée par une seule révélation. Et le Coran vient clore le cycle de la prophétie en proposant un ultime rappel des mêmes vérités immuable. Et enfin, Dieu nous parle, il parle à chacun d'entre nous, dans son cœur. Chaque croyant a une relation particulière à Dieu, à qui il s'adresse dans la prière, dans les invocations, et les mystiques entrent en colloque intime avec leur Seigneur, avec Dieu, selon un mode évidemment qui est éminemment mystérieux et qui n'est pas traduisible dans un langage humain, mais ils disent qu'ils ont un contact avec une présence, avec la présence seigneuriale, avec ce mystère qui se trouve dans le cœur de l'homme, puisque selon la tradition qui est rappelée par les auteurs du soufisme, il y a ce fameux hadith Qudsi où Dieu dit « Ni la terre ni le ciel ne peuvent me contenir, mais le cœur de mon serviteur croyant me contient ».
Et le hadith Qudsi étant une parole de sagesse sanctifiée.
Exactement, c'est une parole de Dieu qui est rapportée par le prophète, mais qui n'a pas le statut du Coran. En l'occurrence, le hadith que j'ai cité, cette parole, et se trouve souvent citée dans les ouvrages de mystiques musulmanes, de soufisme, mais n'est pas dans ce qu'on appelle les recueils canoniques, parce que les mystiques musulmans sont détenteurs d'un enseignement qui pour eux remonte au prophète lui-même selon des canaux qui leur sont propres et qui sont parfois différents de ceux qui sont proposés par les grands commentateurs de hadith dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler la charia ou l'exotérisme musulman.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, avec l'astrophysicien Abdelhak Guiderdouni, nous parlons du lien entre science et spiritualité, entre foi et raison en islam, et pas uniquement, c'est cette articulation de nos jours. Le débat paraît classique, mais il est toujours d'actualité. Abdelhak Guiderdouni est directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. Depuis tout à l'heure, Abdelhak Guiderdouni, vous nous parlez de Dieu, vous avez évoqué pour les mystiques ce colloque intime, ce que d'aucuns appellent une oraison intérieure avec Dieu. Et si nous sortons du contexte islamique, je cite par exemple le physicien et philosophe Yann Barbour, lui-même théologien, il parle dans son ouvrage « Lorsque la science rencontre la religion » qu'il s'insurge en réalité contre les scientifiques qui, dans leur approche drastique, disent « ben, on n'a certes sûrement pas besoin de l'hypothèse Dieu », mais l'hypothèse Dieu n'altère pas le raisonnement scientifique non plus.
Exactement. Vous faites allusion à un auteur qui a renouvelé le débat science et religion au XXe siècle, Ian Barbour. Hein. Et ce débat a connu donc une sorte de renaissance parce que il y a eu un durcissement des positions de part et d'autre. D'un côté, beaucoup de scientifiques prétendent que la science renforce la position matérialiste, voire l'athéisme. Il y a un nouvel athéisme qui est né dans le monde anglo-saxon, avec des figures comme Richard Dawkins, qui prétendent donc que la science démontre l'inexistence de Dieu, ou en tout cas l'inutilité totale des religions. Donc il y a ça d'une part, et il y a d'autre part l'émergence d'un courant créationniste très fort, essentiellement dans les pays anglo-saxons, aussi avec le courant évangélique fondamentaliste qui propose une lecture littérale de la Bible avec la création en 6 jours, de 24 heures, et donc une position qui est totalement en contradiction avec la science considérée comme étant essentiellement matérialiste. Donc, on a ces deux positions très opposés. Un certain nombre de scientifiques, dont Ian Barbour, mais on pourrait citer aussi John Polkinghorne, par exemple un physicien britannique très connu, ont essayé de proposer une sorte de troisième voie dans laquelle on pouvait dialoguer entre science et religion, et on pouvait être un scientifique et un croyant sans qu'il y ait de conflit majeur entre les deux pratiques, tout simplement parce que science et religion ont des objectifs différents, des méthodologies différentes, et il n'y a pas véritablement de contradiction entre l'une et l'autre parce qu'elles se situent sur des plans différents.
Et c'est toujours ce même Jan Balboll qui a parlé de ces quatre temps, le conflit, l'indépendance, le dialogue et l'intégration sous forme d'intégration réciproque entre science et religion.
Exactement, il a proposé cette classification en quatre mouvements dans plusieurs de ses ouvrages, dont Religion in an Age of Science, la religion à l'âge de la science.
Ça, c'était dans ses cours, dans les Gifford Lectures.
Absolument, absolument. Et il a évidemment constaté qu'en Occident, on avait vécu un divorce douloureux qui est symbolisé par l'affaire Galilée. Et ce divorce a provoqué une certaine indifférence de part et d'autre, voire une hostilité de part et d'autre. Il s'agissait maintenant d'entrer en dialogue pour se comprendre mieux les uns les autres et arriver éventuellement à une forme d'intégration. Et là, évidemment, il faut être très prudent sur ce que peut être cette intégration. Il ne s'agit pas de tout mélanger ou de tomber dans le concordisme, mais de trouver le mode d'articulation entre les deux démarches de connaissance.
Abdelhak Guider-Doni, est-ce que dans ces temps de pic de préoccupation métaphysique devant le transhumanisme, devant ceux qui pensent qu'in fine il va y avoir la mort de la mort, quel sens donne-t-on du coup à la procréation, le sens même de la vie? Il y a des moments comme ça dans l'histoire de l'humanité où il y a quelques angoisses et qui se traduisent par un pic de préoccupation majeure dans les considérations spirituelles et métaphysiques.
Oui, nous sommes dans une période difficile pour l'histoire de l'humanité. Il y en a eu d'autres, mais ce qui caractérise notre période, c'est la globalisation, c'est le fait que les problèmes sont devenus planétaires. Il faudrait qu'il y ait des solutions planétaires, mais les communautés en général, les États, les groupes humains, les religions, les cultures ont tendance à se refermer sur elles-mêmes. Donc voilà, on voit des problèmes planétaires et on a du mal à faire émerger des solutions planétaires. Ce qui est sûr, c'est que le 21e siècle va être une période de grand changement au niveau mondial parce que notre mode de développement, qui s'est imposé désormais à la planète entière, n'est pas durable. Il va falloir prendre des décisions très lourdes de conséquences pour pouvoir assurer l'avenir de l'humanité au 21e siècle. Et évidemment, on est à la recherche de valeurs qui nous permettront de prendre ces décisions dans la plus grande justice et le partage. Et c'est pour ça que les religions sont sollicitées actuellement en dialogue avec la science parce qu'elles sont détentrices de valeurs et beaucoup de scientifiques entrent en dialogue avec les religions pour essayer d'élaborer un modèle de convivialité au sein d'un monde qui est en train de se fragmenter.
Ceci, c'est lorsque les religions ne sont pas considérées comme des éléments fauteurs de troubles, elles sont détentrices, certes, de valeurs, et en matière de sens, elles demeurent une référence. Mais d'aucuns disent, avec le monde scientifique qui évolue à très grande vitesse, ses contours sont constamment redéfinis. Le front des connaissances va très vite. La science est cumulative et auquel cas il n'y a plus de catégories bien déterminées, il n'y a plus de frontières étanches, la lisière entre la terre et le ciel s'est amenuisée et l'homme est éjecté du centre de l'univers déjà depuis Galilée, la barrière entre l'homme et l'animal n'est plus appropriée depuis Darwin, la limite entre le conscient et l'inconscient paraît insaisissable depuis le moment Freud, et bientôt, comme nous serons davantage connectés, nous ne pourrons pas distinguer le réel du virtuel à l'orée du cyberespace. Que diriez-vous à ceux qui nous parlent ainsi, Abdelhak Guider-Doni?
C'est un mouvement indéniable. La question, évidemment, est de savoir pourquoi nous existons et qu'est-ce que le réel, en fin de compte. Qu'est-ce que le réel pour les religions, l'être humain a vocation à une réalisation, à devenir réel, parce qu'il est finalement évanescent, comme tout le reste. Il est juste le carrefour de forces, de molécules qui se croisent pendant un temps finalement assez bref. Mais il n'est pas que cela, il n'est pas que matière, il est aussi esprit. Et dans le plan de Dieu pour la création, l'homme a vocation à connaître Dieu de façon très mystérieuse, puisque ce plan de Dieu pour la création, tel qu'il est exprimé par exemple dans le Coran au moment de la création d'Adam, eh bien il n'est pas détaillé et les anges eux-mêmes n'y ont pas accès. Dieu dit « Je sais aux anges, je sais ce que vous ne savez pas à propos d'Adam ». Et c'est ce mystère que nous devons rechercher. Et évidemment, le grand danger, c'est que nous soyons complètement dans le virtuel, comme dernière étape d'une progression dont vous avez parlé tout à l'heure, et que nous oublions complètement la vocation qui est la nôtre. Et alors évidemment, les religions ont bien du mal apporter ce message, parce que on est maintenant dans une période de total relativisme, où, comme vous le dites fort justement, la frontière entre la vérité et la pseudo-vérité, les informations et les fake news, le vrai et le faux, le réel et le virtuel, le reportage et la fiction, ces frontières s'effacent. Et on ne sait plus très bien à quel sein se vouer, littéralement. Voilà. Alors, les religions viennent parler d'un message qui, lui, est quand même un message éternel lié à notre condition humaine, et en contraste très fort avec le progrès technique et scientifique qui, lui, ne cesse d'avancer et donc d'apporter de nouvelles connaissances. Il y a une sorte de double axe, là, un axe très mouvant qui est celui du front des connaissances qui ne cesse de progresser, et un autre axe sur la grande question de notre humanité et du but de notre vie. Et c'est en cela que les religions peuvent apporter un message pour l'humanité d'aujourd'hui.
Oui. Encore faut-il que l'on comprenne et que l'on saisisse, y compris le vocabulaire, les catégories, au sens aristotélicien du terme, de ce que énoncent les religions. Parler des anges de nos jours, pour certains, ça serait au mieux ce qui se passe sur Internet, parce que l'angélologie a toujours été discuté à travers l'histoire et a fortiori maintenant, surtout à un moment où l'homme, dans tel un enchaîné fondu, sa part biologique laissera petit à petit place dans un tuilage homme-machine à celle robotique de plus en plus sophistiquée et miniaturisée. Et on parle même d'un homme augmenté qui goûtera un élixir de vie aseptisé.
Oui, c'est tout l'enjeu du transhumanisme. Alors, il y a contestation pour savoir ce qui est réaliste dans cette affaire-là, c'est-à-dire ce qui pourra advenir dans les années qui viennent ou les décennies qui viennent, et ce qui relève complètement du fantasme ou de la fiction. Les religions nous enseignent que la mort fait partie de la condition humaine et que nous avons besoin de mourir pour accéder à autre chose qui est en fait aussi notre humanité. Évidemment, c'est un domaine dans lequel il y a essentiellement un acte de foi. Ce n'est pas du domaine rationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la révélation. Ce ne sont pas des vérités, entre guillemets, auxquelles on peut accéder par la raison. C'est quelque chose qui dépasse complètement la raison, c'est l'objet de la foi, de l'espérance, que ce soit dans le judaïsme, le christianisme ou l'islam. Et dans ce domaine-là, évidemment, le transhumanisme fait complètement fausse route, parce que on essaie de maintenir un homme augmenté, de le faire vivre le plus longtemps possible, mais dans quelles conditions, voire de lui donner une sorte d'immortalité. Et on voit bien qu'il s'agit là de quelque chose qui est en totale contradiction avec l'enseignement des religions qui insiste au contraire sur la faiblesse de l'être humain, une faiblesse qu'il s'agit de comprendre, de réaliser spirituellement et qui constitue finalement notre force par rapport au cheminement vers Dieu. C'est par la faiblesse que nous nous rapprochons de Dieu parce que lui seul est fort. Ça, c'est l'enseignement de l'islam et en particulier de l'islam spirituel et mystique.
Abdelhak Guider-Douni, si vous voulez bien, revenons au contexte islamique, à UX, donc au pluriel, et notamment à travers l'histoire, pour essayer de comprendre avec vous pourquoi il y a une telle régression après avoir connu un apogée civilisationnel. Prenons comme exemple, et vous-même vous le dites, dans le sillage de l'ouvrage de Gingéris, quand il dit, il parle du livre qu'on n'a jamais lu. En réalité, c'est Alfred Koestler qui, dans Les Somnambules, parle du livre posthume de 1543 de Nicolai Copernic, le De Revolutionibus Orbium Celestium, de la révolution des orbes célestes ou des sphères célestes, que cet ouvrage n'a jamais été lu, ça c'est Alfred Koestler qui dit. Donc, notre ami fait une enquête, il voit que ce n'est pas vrai, au contraire, qu'il a été même commenté presque autant que la Bible, il vient en second lieu. Et ce qui nous intéresse, et c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que dans le De Revolutionibus Orbium Celestium de Nicolai Copernic, il y a 5 astronomes, ou présentés comme tels, musulmans. Al-Battani, l'Albatanius des Latins, Thabit ibn Qurra, le Thébet, qui est un cratère lunaire qui porte son nom, Averroès, que vous avez cité tout à l'heure, Azarkiel et aussi Albitrogi. Et donc, cela signe l'importance de ces savants. Et donc, question dans la question, comment se fait-il qu'après avoir connu cet apogée civilisationnel et scientifique, l'on soit dans la décadence?
C'est une grande question. Vous faites allusion à l'influence que la pensée musulmane a eu sur l'œuvre de Copernic. Ça a été maintenant bien étudié, en particulier par un universitaire américain du nom de George Saliba, qui a écrit plusieurs ouvrages pour montrer que, à l'opposé de ce que Ernest Renan ou Ignaz Goldziher ont pu dire, la grande période de la science arabo-musulmane a duré pendant des siècles et des siècles et se situe d'ailleurs après le 9e siècle, c'est-à-dire après la période du début du califat abbasside, qui était traditionnellement la courte période pendant laquelle les orientalistes disaient que le monde musulman s'était intéressé à la science. Alors des auteurs comme Georges Saliba, Dimitri Goutas, dont j'ai parlé tout à l'heure, Rojdi Rached ou d'autres, donc des universitaires très sérieux, ont montré que la science musulmane avait duré des siècles et des siècles, elle avait changé d'endroit, ce n'était pas simplement Bagdad, mais c'était aussi la Syrie, l'Égypte, l'Asie centrale, bien sûr l'Andalousie. Et de nombreux astronomes se sont succédés, si on se cantonne à l'astronomie, et ces astronomes ont influencé Copernic et ont donc préparé la révolution copernicienne. C'est quelque chose de très important. Le problème qui se pose, évidemment, c'est ce que l'historien des sciences Joseph Needham, spécialiste de la Chine,
pose la grande question.
La grande question, c'est-à-dire pourquoi, alors que l'humanité a été pendant au moins deux fois à la veille de la Renaissance, en quelque sorte. Il y a 2000 ans en Chine et il y a 5 ou 6 siècles dans le monde arabo-musulman, pourquoi n'y a-t-il pas eu un Copernic en Chine ou un Copernic dans le monde arabo-musulman? Alors, on sait par Al-Biruni qu'il y avait des héliocentristes parmi les astronomes arabo-musulmans. On n'a jusqu'à présent jamais trouver de manuscrits de ces astronomes. Un jour, cela arrivera peut-être. Peut-être qu'il y a un manuscrit caché dans une bibliothèque qui demande à être exploité. On sait que un grand astronome d'Asie centrale qui a fini sa carrière chez les Ottomans, qui s'appelait Ali Khouji, a discuté et contesté les preuves, entre guillemets, de l'immobilité de la Terre telles qu'elles sont proposées par Aristote. Et donc, à la fin de sa démonstration, il exprime l'idée que la Terre pourrait être en mouvement sans qu'on s'en aperçoive, simplement en raison de la loi de l'inertie, en quelque sorte, du fait qu'on ne détecte pas les mouvements rectilignes et uniformes. Donc, il y a déjà des jalons qui sont là pour la révolution héliocentrique, mais apparemment, ça n'a pas eu lieu.
Donc, oui, c'est un homme du 15e siècle. Donc.
Voilà, exactement. Il y a Ali Khouji. Donc, il y a tous les éléments qui sont en place. Et de nombreux historiens des sciences ont essayé de répondre à la grande question en passant en revue toutes les explications de nature intrinsèque ou extrinsèque. Donc, dans le jargon de ces historiens, les explications intrinsèques font référence à une faiblesse supposée de la culture arabo-musulmane qui serait incapable de concevoir les sciences. Il y a aussi des explications de nature extrinsèque, par exemple la difficulté à avoir accès à des matériaux de construction. Aucune de ces explications en soi n'est réellement satisfaisante. Donc, en fait, on ne sait pas pourquoi il y a eu la Renaissance, qu'est-ce qui a vraiment causé cet événement. Et je crois que la tendance maintenant chez les historiens des sciences, c'est de contester l'écriture héroïque de l'histoire des sciences qui a été promue essentiellement au XIXe siècle, aussi par des gens qui étaient dans la mouvance orientaliste comme Ernest Renan, l'idée que on est sorti de 15 siècles de Moyen-Âge et d'obscurantisme, et il y a eu une sorte de rupture radicale avec Copernic, Kepler et Galilée. Cette idée-là est maintenant battue en brèche, et on voit davantage l'histoire des sciences comme un continuum, un mouvement continu depuis les Grecs en passant par les scientifiques arabes, par des noms prestigieux qu'on aurait pu encore citer comme celui de Ibn al-Haytham,
Al-Hazen
des Latins, voilà Al-Hazen, qui a fondé véritablement la méthode expérimentale avec une modernité vraiment très très difficile à croire quand on lit le manuscrit, le manuscrit sur l'optique, etc. On voit que tout est déjà là du point de vue de la méthode expérimentale, la méthode scientifique.
Il a profité de son assignation à résidence pendant 6 ans par le calife Al-Hakim, le calife fou, parce qu'il lui avait demandé de calculer les crues du Nil, et comme il avait fait quelques calculs un peu erronés, il l'a assigné à résidence, et c'était une aubaine pour Al-Hazen de faire ses travaux.
Ouais, exactement, et il a été le grand fondateur de l'optique, mais aussi de la méthode expérimentale, si bien que je pense que beaucoup d'universitaires sérieux maintenant remettent en question cette écriture héroïque de l'histoire des sciences et voient la période arabo-musulmane et ensuite la fin du Moyen-Âge latin comme une période de grande effervescence scientifique qui finalement a débouché sur l'œuvre de Copernic et de Kepler et de Galilée.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'astrophysicien Abdelhak Guiderdouni. Abdelhak Guiderdouni est directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. Nous parlons aujourd'hui du lien, le débat paraît classique mais il est toujours d'actualité, entre science et spiritualité, science et religion, foi et raison, et tout particulièrement dans les contextes islamiques. Pour cette dernière partie, si vous voulez bien, Abdelhak Guiderdouni, vous qui avez évoqué la grande question, et puis si vous voulez bien nous parler de cette théorie chère à Kozandé quand il parle de la méroporie, si vous voulez nous expliquer le concept, le terme même de cette théorie des états riches qui ont permis l'éclosion de la science, des petits états riches ou des petits royaumes qui rivalisent entre eux pour avoir des scientifiques, pour aussi des artistes, et peut-être que même la géographie avec le cabotage et le transport maritime, ça a favorisé davantage la science que des étendues désertiques terrestres par un temps caniculaire.
David Kozandé est un physicien suisse qui a écrit un ouvrage récemment, enfin il y a plus de 10 ans quand même, sur cette grande question en reprenant le dossier et en examinant toutes les explications qui ont été données de l'essor de l'Occident et donc de l'échec du monde chinois ou du monde musulman pour faire naître la Renaissance et la révolution scientifique qu'on a connue dans le monde moderne. La conclusion de Kozandé, c'est que les explications ne sont pas satisfaisantes. Bien sûr, à un moment donné, on a dit la science n'a pu naître dans le monde protestant que parce que les protestants croient dans le libre examen des tests théologiques, donc ils ne sont pas prisonniers d'un dogme comme le sont les catholiques. Et puis on s'est rendu compte que la science pouvait aussi se développer dans le monde catholique. Après, on a dit les monothéistes peuvent développer la science parce qu'ils ont l'idée d'un Dieu créateur, et ce Dieu créateur est un Dieu législateur, donc il y a des lois dans le monde, et justement le scientifique doit trouver ses lois. Donc les peuples d'Asie ne peuvent pas développer la science. Et puis on voit actuellement que la science peut très bien se développer dans un contexte indien, japonais ou chinois. Donc toutes ces explications, dit Kozande, sont erronées. Et aucune explication n'est véritablement satisfaisante. Et lui donc propose une explication basée sur la géographie du continent européen, qui est tout à fait particulière. Quand on la regarde avec des yeux neufs, on s'aperçoit que l'Europe est un continent où il y a de nombreuses péninsules, des mers intérieures qui rentrent profondément dans le continent, des montagnes un peu partout. Et cela a produit en Europe une multitude de petits États qui, en général, n'ont jamais pu se transformer en empires. Tous les empires qui ont essayé de se développer en Europe ont échoué, que ce soit bien sûr l'Empire romain, celui de Napoléon ou le Troisième Reich. Donc les empires ne durent pas parce que l'Europe est un continent très fragmenté, et Kozande explique que les États qui s'y trouvent sont suffisamment séparés les uns des autres par des mers, des montagnes, pour ne pas s'uniformiser, et en même temps, ces montagnes et ces mers peuvent être franchies pour qu'il y ait quand même du commerce et des échanges. Et c'est la situation optimale, dit-il, pour développer la science, parce que la science a besoin de diversité, elle a besoin qu'on fasse des essais, des erreurs pour se corriger. Et la situation la meilleure, c'est celle d'une diversité dans l'unité, et c'est pas du tout celle d'un empire uniforme qui imposerait une vérité une bonne fois pour toutes. Et donc voilà l'explication que donne Kozande, et il se termine en disant qu'il affirme que la situation maintenant est mondialisée, mais ce ne sont plus les États qui sont en commerce et en échange, mais plutôt les grandes aires géographiques, les grandes aires continentales, donc les États-Unis, la Chine, l'Europe, l'Afrique, et ce sont les émulations entre ces différentes aires géographiques qui provoquent le développement de la science actuellement.
Comme nous nous approchons du terme de l'émission, je reviens à ce que vous avez dit tout à fait au début. Comment guérir de ces pathologies, celles du créationnisme et celles du concordisme? Comment observer ce yalta entre les données révélées et les démonstrations scientifiques? J'ai en tête cette séparation des magistères de Stephen Jay Gould quand il parle du NOMA, cet acronyme, le Non-Overlapping Magisteria, c'est-à-dire que il y a une sorte d'approche orthogonale en quelque sorte entre la science et la religion. Les croyants, et notamment croyants musulmans, pourraient intégrer cela?
C'est indispensable, à la fois pour avoir une relation apaisé entre science et religion, mais aussi une relation juste à la science et une relation juste à la religion. Le créationnisme ou le concordisme sont des pathologies à la fois scientifiques et religieuses. Je rappelle que le concordisme consiste à affirmer que les textes fondateurs des religions, la Bible, le Coran, voire les Védas pour les hindous, ces textes fondateurs contiennent des énoncés de nature scientifique qui peuvent être en accord ou en désaccord avec la science. Et donc on est en train de mélanger les genres en affirmant que un message spirituel dont le but est essentiellement l'amélioration des croyants en vue du salut pour ceux qui y croient, ce message-là a aussi une fonction scientifique qui remplace l'investigation rationnelle du monde. Et là, évidemment, on est dans une erreur scientifique, puisqu'on fige la science, alors que la science, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est essentiellement un mouvement, un progrès du front des connaissances. Donc on fige la science, et puis On détourne la religion de son objectif, qui est avant tout un objectif éthique et spirituel, d'amélioration de soi et d'aide des autres pour pouvoir peut-être espérer le salut. Donc on est dans cette pathologie-là, et cette pathologie est finalement la conséquence d'un rapport impropre avec le monde moderne. On ne comprend pas la science et on ne comprend pas la religion parce que la formation dans un domaine et dans l'autre s'est affaiblie, et on arrive donc à des erreurs comme ça qui sont extrêmement nocives parce qu'elles concourent aussi à ridiculiser la position des croyants en laissant croire que les croyants affirment des choses sur le monde qu'en fait ils n'affirment pas. C'est simplement des interprètes un peu dévoyés qui prétendent parler pour la religion.
Eh bien, j'espère que nous aurons avec vous fait œuvre utile avec cette émission. Merci infiniment, Abdelhak Kiderdouni. Merci de nous avoir édifiés par vos propos de savant. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, directeur de recherche au CNRS et ancien directeur de l'Observatoire de Lyon. Chers amis auditeurs, c'était Question d'Islam. Aujourd'hui, nous avons parlé du lien entre science et religion, notamment en islam. Vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques sur le site franceculture.fr. Cette émission ainsi que toutes celles de la chaîne est à écouter et à podcaster sur le site de France Culture et sur l'application Radio France. L'attaché de production est Daphné Abkral. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Clément Daté et la réalisation est assumée par notre ami Franck Lilin. Thank you.